7h17, bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
Alors ce matin, on va revenir sur l'étude publiée à la fin de 2018, en décembre, là, sur les expos. Une étude faite par une firme pour voir un peu le potentiel du marché de Montréal. Et ce matin, dans la presse, on nous dit qu'il y a trois économistes qui ont passé les chiffres et qui disent qu'on n'a pas tenu compte du taux de change, ce qui change les résultats.
Oui, en fait, on nous dit qu'on est le 18e rang en potentiel de marché sur les 27 marchés de la Ligue en question d'achat de billets ou de potentiel d'achat de billets sur la capacité de payer des gens. Bon, on nous dit « oui, on n'a pas tenu compte du taux de change ». Moi, je vais amener des bémols. L'article démolit un peu l'étude, mais je vais t'apporter quelques bémols.
Vas-y.
On est surpris, les fans de baseball, là, je vais prendre leur côté un peu. Un, il y a un système de péréquation au baseball. Les riches payent aux pauvres. Et on va se le dire, Montréal, on va probablement faire partie des pauvres. Donc, on va avoir une péréquation du baseball majeur en dollars américains, ce qui viendra probablement compenser un peu le fait que nos gens sont pas capables de payer en dollars US, donc n'ont pas la même capacité de paiement. Autre chose, les contrats de TV sont souvent en dollars américains aux États-Unis, en canadien peut-être ici, mais il y a une certaine proportion. Donc, il n'y a pas une corrélation directe entre la capacité de payer des partisans dans le stade puis la rentabilité d'un club de baseball, parce qu'il y a aussi d'autres revenus qui ne sont pas seulement locaux. Une fois que ça c'est dit, effectivement, comparer des marchés de la Ligue en dollars US et canadiens sans tenir compte du taux de change, mais juste le pouvoir d'achat relatif, c'est comme si je disais hey, « moi, je vais acheter dans les pays chauds, là. Puis le gars fait le même salaire que moi, il gagne 40 000 pesos, moi je gagne 40 000 dollars canadiens. » On est à peu près égal, tu comprends?
Ouais, ouais, non, mais...
C'est parce que le taux de change canadien et américain a souvent été proche. Là, on est à 1,33 canadien par dollar américain, il y a un bon écart. Mais tu te souviens qu'au début des années 2000, là, dans la première décennie, on était proche du pair, même au pair. On a vu ça changer beaucoup. Il y a 40 ans aussi, on était proche du pair. Donc, le pair veut dire que le 1$ pour 1$. Donc, ce qu'on aurait dû faire du côté de l'étude, si on voulait être plus honnête ou plus transparent, c'est de faire trois scénarios. Un scénario avec le dollar au pair, un scénario avec le dollar, mettons, à 68 cents dans la pièce, comme on a connu dans les pires moments, et un scénario actuel où on est à peu près à 1,33 canadien par dollar américain ou 75 cents américains par dollar canadien pour être plus représentatif.
Mais tu sais quoi le problème que je trouve dans ça? C'est que, et là, on parle d'une étude sur le baseball, mais on pourrait en prendre plein d'autres, là. C'est une firme qui est propriété de deux clubs de baseball, de deux propriétaires, là, de clubs de baseball, qui fait une étude pour des investisseurs, là, pour M. Bronfman et son groupe, qui veulent que Montréal obtienne un club dans la Ligue nationale et qui veulent aussi qu'il y ait une forme de support public, là, d'investissement public. Puis là, tu publies une étude, je vais dire ça poliment, un petit peu orientée. Combien de fois, Pierre-Yves, on a des études qu'il faut regarder qui est le commanditaire pour lire les conclusions puis s'apercevoir que c'est dirigé?
Ben, va plus loin que ça. Va juste dans les hypothèses. C'est que tu commandes une étude avec certaines balises. Quand j'en ai un cours à HEC là-dessus, je me souviens, les gens qui m'ont eu comme prof en comptabilité, là, j'avais un cours de service conseil. Je disais toujours, quand vous voyez une étude ou une analyse, allez toujours voir les hypothèses de base. Le diable est tout là. Si vous comprenez les hypothèses, vous allez pouvoir contrecarrer n'importe quel
L'hypothèse,
argument.
L'hypothèse, c'est ce que le client veut, ça.
Ben, c'est ce que le client veut. Ou c'est, voici mon travail dans les limites. Comme mettons, Paul, je te dis, je suis le plus riche. Voici l'étude de mon hypothèse. Et finalement, tu vas voir mes hypothèses, tu vas voir. Je suis le plus riche dans les 10 pieds carrés qui m'entourent le matin à 5 heures dans ma chambre à coucher. Ben là, c'est vrai. Tu comprends?
Ouais, ouais.
Donc, tu comprends? Il y a une limite dépendant de ce que tu dis. Donc, l'étude, la compagnie ne ment pas en fonction des hypothèses prises. Maintenant, on pourrait mettre en cause les hypothèses. Mais le message, gardons la transparence.
Voilà. Est-ce que vous avez l'intention de vous marier? Avez-vous plutôt l'intention de divorcer? Et est-ce que vous avez pensé à votre CELI?
Oui, parce que Paul, il y a beaucoup de gens avec qui j'ai discuté cette semaine qui ont eu un réveil brutal. Tu sais, quand on est conjoint de fait et qu'on n'a pas de contrat, on sait qu'on n'est pas protégé. Ça, on le sait d'avance. Mais quand on est marié, savais-tu que le CELI ne fait pas partie du patrimoine familial?
Arrête donc, toi.
Ben, là, imagine, OK. Le CELI avant, c'était comme anecdotique. C'était drôle. Mais tu sais, quand le CELI commence à être 63 500 maintenant en contribution, plus le gain, plus l'abri fiscal, ça commence à être une grosse patente. Donc, je te donne un scénario. T'as deux personnes qui se marient, pas en société d'acquis de par défaut, là, mais en séparation de biens. Dans la séparation de biens, tu comprends, on sépare le patrimoine familial. Mais le CELI, c'est pas la résidence principale, c'est pas les REER, c'est pas les meubles. Ça fait pas partie du patrimoine familial. Donc, tu te maries en séparation de biens, Puis ton conjoint ou ta conjointe dit, moi, les REER, m'a laissé faire ça, m'a remplir mon CELI, toi, remplis ton REER. Donc, tu me vois venir?
Oui, oui, oui.
T'arrives le moment de la séparation, la personne que son CELI est plein le garde, partage les REER du conjoint ou de la conjointe. Alors, ça fait quelque chose de drôle.
Si un des deux propose à l'autre, je m'occupe du CELI, tu t'occupes du REER, c'est une mauvaise idée.
Ben, ça dépend le REER de qui, puis CELI de qui. Parce que, par exemple, si t'es en société d'acquêt, donc là, le CELI gagné pendant le mariage s'accumule, et toi, tu décides de remplir ton CELI pendant que ton conjoint ou ta conjointe ne le remplit pas du tout, au moment de la séparation, tu vas y envoyer la moitié de ton CELI, mais cette personne-là va garder 100% de son droit de contribution, peu importe son revenu, parce que le CELI, c'est en fonction de ton âge et non pas en fonction de ton salaire. Et toi, tu vas perdre la moitié de ton droit de contribution que tu as donné à ton ex. Alors, le message ce matin, c'est peut-être un peu mélangeant, mais c'est de vous dire, checkez votre CELI. Avant de dire « oui, je le veux », demandez-vous « oui, je le veux, ton CELI » ou « oui, tu le veux, mon CELI ».
On peut toujours compter sur toi. Oui, 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 ça c'est clair. On peut toujours compter sur toi. Il est 7h23.